إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله وأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما زلنا نقرأ إن شاء الله تعالى رسالة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى ألا وهي تفسير أو أصول في التفسير ووصلنا الحمد لله سبحانه إلى أنواع التشابه في القرآن فقال الشيخ رحمه الله التشابه الواقع في القرآن نوعان أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليها أو إليه Donc on poursuit بإذن الله عز وجل l'explication de l'épître fondement du tafsir ou dans le tafsir du noble Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Et nous allons donc étudier aujourd'hui le chapitre intitulé « Les formes de tashabuh dans le Coran ». Donc je rappelle la définition de tashabuh, al-khas, qui est spécifique, « Ayakuna ma'na al-aya mushtabihan khafiyan » بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. Donc je rappelle que le tashabuh qui est spécifique dans le Coran, eh bien c'est les versets dont les sens seront dissimulés ou cachés ou qui peuvent prêter à confusion de sorte à ce que le lecteur qui n'a pas la science requise risque de penser ou de croire une chose qui ne convient pas à Allah tabarak wa ta'ala ou à son livre ou à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le savant enraciné dans la science, lui, il comprend. Il comprend le sens de ce verset, contrairement à celui qui n'a pas cette science. Et donc on va voir ici les deux formes de tashabuh que l'on retrouve dans le Coran. Les deux formes de tashabuh que l'on retrouve dans le Coran. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, at-tashabuh qui existe dans le Coran al-Karim est de deux formes. La première, celle qui est réelle, véritable. Réelle et véritable, haqiqiyun. Ce tashabuh, lorsque il va exister dans le verset, il ne sera pas possible pour l'être humain de connaître sa réalité ou de connaître le sens réel et véritable qu'il y a dans le verset. Comme par exemple le fait de connaître la réalité des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voyez? Donc même si nous connaissons le sens de ces attributs, nous ne pouvons pas concevoir ou cerner la réalité de ces attributs. On sait ce que veut dire As-Sami'u, Al-Basiru, ou on sait ce que c'est concernant Allah que As-Sam' ou Al-Basar, l'ouïe et la vue, le fait d'entendre, le fait de voir, ça c'est le sens de ses attributs. Le fait de voir, le fait d'entendre, et donc ces attributs-là appartiennent à Allah tabarak wa ta'ala. Mais est-ce que l'on peut connaître la réalité de ces attributs ou le comment de ces attributs appartenant à Allah tabarak wa ta'ala? Non. C'est pour cela qu'Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Et ils ne peuvent le cerner avec leur science. Ils ne peuvent cerner la réalité d'Allah tabaraka wa ta'ala, le comment d'Allah jalla wa ala. Également la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, les vues ne peuvent le cerner. Et c'est lui qui cerne toutes les vues, toutes les visions, tous les regards. Allah jalla wa ala, c'est lui qui cerne tous les regards. Mais est-ce que le regard peut cerner Allah tabaraka wa ta'ala? Là. Wa huwa Al-Latif Al-Khabir. Et c'est lui, Al-Latif et Al-Khabir. Celui qui fait preuve de douceur. Al-Khabir, celui qui connaît les choses dans les moindres détails ainsi que les choses qui sont générales et immenses. C'est pour cela que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a été questionné au sujet de la parole d'Allah, Ar-Rahmanu. Le Rahman sur le trône s'est élevé. Allah il s'est élevé sur le trône. Et un homme il a demandé à l'imam Malik, comment Allah il s'élève sur le trône? Comment? Donc il a demandé, il n'a pas demandé ou posé la question sur le sens de Istawa, mais il a posé la question sur le comment Allah il s'est élevé sur le trône. Qu'est-ce qu'il a répondu l'imam Malik? Il a dit, l'istiwa, l'élévation, n'est pas quelque chose qui est inconnu. C'est-à-dire que le sens du mot l'istiwa, il est connu chez les Arabes. Ça veut dire, l'irtifa, le fait de s'élever. Puis il dit, mais le comment, il n'est pas perceptible. Le comment de l'élévation d'Allah sur le trône, est-ce qu'il est perceptible par nos yeux, par nos sens? Non. Mais il dit malgré ça, al-imanu bihi wajib. Mais la foi en cela, elle est obligatoire. Pourquoi elle est obligatoire? Parce qu'Allah, il a dit, ar-Rahmanu ala al-arshistawa. Ar-Rahman s'est élevé sur le trône. Wa su'alu anhu bid'ah. Et le fait d'interroger à ce sujet-là, est une innovation. Est une innovation. Est-ce que les Sahaba, radiallahu anhum, les compagnons,
lorsqu'ils ont appris ce verset, est-ce qu'ils ont posé la question au prophète sur le comment? Est-ce qu'ils ont dit au prophète, Ya Rasulallah, comment Allah s'élève sur le trône? Ils n'ont pas posé la question. Parce qu'ils savent très bien que le comment, ils ne peuvent pas le cerner. Et c'est une science qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est gardée pour lui. Et si Allah ne nous a pas communiqué cette science-là, c'est que nous n'en avons pas besoin. Taïeb, ici-bas en tout cas. فَهَذَا النَّوْعُ لَا يُسْأَلْ عَنْ إِسْتِكْشَافِهِ. Donc cette forme de teshabuh, véritable, réelle, concrète, eh bien, on n'a pas à questionner sur le dévoilement ou la découverte de cette forme de teshabuh. Pourquoi? Parce qu'il nous est impossible de parvenir à une réponse. Il nous est impossible de parvenir à une réponse, ici-bas. Ça y est? Hent? C'est quoi que tu n'as pas compris?
La réponse de quelle question?
Des questions qui concernent les versets qui ont cette forme de teshabou, qui est impossible de connaître. Qu'Allah tabarak wa ta'ala n'a pas informé, comme on a dit encore une fois, la réalité des attributs d'Allah. Comment est le visage d'Allah? Comment Allah s'élève sur le trône? Comment Allah il entend? Comment Allah il voit? Ça, c'est cette forme de tashabuh. On n'a pas à interroger sur le comment. Tu comprends? Non. Le second, le tashabuh al-nisbi. وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال جل وعلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وقال جل وعلا ثم إن علينا بيانه وقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. La deuxième forme de tashabuh, celle que l'on dit « al-tashabuh al-nisbi », le tashabuh qui est relatif. Et c'est ce qui est « mushtabih », mais seulement pour certaines personnes et pas d'autres. Donc ce tashabuh, le sens de ces versets qui sont « mushtabih », d'un tashabuh qui est relatif, il est connu, ce sens-là, chez les savants enracinés dans la science, contrairement aux autres. Donc cette forme-là, on pose la question. On doit interroger les gens de science, ces savants-là, afin de connaître le sens de ces versets mushtabihat, d'un tashabuh qui est relatif, nisbi, encore une fois. Afin que le alim, al-rasikh fil ilm, enraciné dans la science, t'expose le sens véritable de ces versets-là. Car il est possible de parvenir à ce sens-là. Car il n'y a pas dans le Coran une chose qui ne peut être connue ou comprise de qui que ce soit. Ça y est, et on parle ici encore une fois des tashabuh, des versets qui sont mushtabiha, d'un tashabuh qui est relatif, c'est-à-dire pour lesquels on a besoin d'une science pour les comprendre et ne pas être induit en erreur à cause d'une ignorance. La preuve, il dit Allah tabarak wa ta'ala dans le sens rapproché, c'est-à-dire le Coran, est un exposé pour les gens, une guidance et une exhortation pour les pieux. Il dit Allah Jalla wa ala wa nazzalna alayka al-kitab, et nous avons descendu sur toi le livre en guise d'exposé sur toute chose. Il dit également, et lorsque nous te le récitons, suis sa récitation. Puis il dit, ensuite, c'est à nous de te l'exposer ou de l'exposer. Puis il dit Allah Jalla wa ala dans la sourate An-Nisa, ô les gens, est certes venue à vous une preuve de la part de votre Seigneur, et nous avons descendu sur vous une lumière claire ou évidente. Voyez ? Donc il n'y a pas un verset dans le Coran qui contient cette forme de tashabuh qui est ignorée de tout le monde. Non, il y a forcément des ulama qui sont enracinés dans la science, qui peuvent te l'expliquer et t'exposer le sens véritable de ces tashabuhat al-nisbiya. Encore une fois, on parle ici de tashabuh qui est relatif. On ne parle pas du tashabuh qui est haqiqi, concernant par exemple le comment des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais dans ce cas-là, ce tashabuh, il ne peut être connu de qui que ce soit, même pas des ulama. نعم ولهذا قال الشيخ الشتري أو الشتري حفظه الله تعالى تقدم معنا أن أهل العلم لا يجيزون حمل اللفظ على غير مراد الله تبارك وتعالى فلا يفسرون اللفظ بغير مدلوله لأن هذا من القول على الله بلا علم والعياذ بالله وبالنسبة للألفاظ يفسرونها بمراد الله منها بضمها إلى النصوص الأخرى الواردة في ذلك الباب فهم ينظرون نظر صاحب العينين وليس نظرهم كنظر الأعور بنظر إلى جهة دون أخرى. Donc ce sujet-là, on l'a vu déjà dans les cours précédents, comme dit le Cheikh Chedri, Hafidhahullah Ta'ala, le fait que les gens de science interdisent d'interpréter un terme, un mot ou une formule qui ne serait pas conforme à l'intention, à la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc on n'a pas le droit d'expliquer ou d'interpréter un terme en indiquant une chose que n'indique pas le mot qu'Allah Jalla wa Ala a utilisé. Vous voyez ? Car cela reviendrait à parler sur Allah sans science, qu'Allah nous en préserve. Donc par rapport aux mots et aux formules, les savants les expliquent conformément à l'intention et à ce que a voulu nous dire Allah tabaraka wa ta'ala, et comment ils vont opérer, eh bien ils vont utiliser, dans les cas de des versets qui sont mushtabiha, d'un tashabuh qui est relatif, ils vont utiliser d'autres textes qui sont eux muhkama. D'accord ? Donc je rappelle la définition de l'ihkam qui est spécifique, un yakuna ma'na al-aya wadhihan jaliyan la khafa'a fihi. Le verset qui est muhkam, c'est un verset dont le sens est clair, apparent, ne comportant aucune confusion ou équivoque. Voyez ? Donc ils vont utiliser d'autres textes qui sont muhkama afin d'expliquer les textes qui sont eux mushtabiha. Tayyib. Donc ils vont, hein, pour imaginer un peu cette parole, ils vont regarder avec leurs deux yeux. Tayyib. Ils vont regarder avec les deux yeux. Ils ne vont pas regarder avec un œil comme ferait le borgne. Non, il faut regarder avec les deux yeux. Il faut regarder Yani, en réunissant al-nusus, les textes coraniques et les textes prophétiques. Contrairement au borgne qui va regarder seulement dans une direction et pas dans une autre. Là, al-mu'min, al-muslim, al-mu'ahid, le monothéiste, afin d'émettre un jugement, il doit réunir tous les textes authentiques. Et après cela, il pourra yani, émettre un jugement. Et pas avant. Faqal, le Sheikh al-Uthaymin, رحمه الله تعالى وأمثلة هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى ليس كمثله شيء حيث اشتبه على أهل التعطيل ومن هم أهل التعطيل قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة السفارينية والتعطيل هو تخلية الله تعالى عما يجب له من الأسماء والصفات فيعطلون النصوص عن مدلولها ويخلون الله عز وجل عما يتصف به مما تقتضيه هذه النصوص ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت صفات الله وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. Donc, parmi les exemples de cette forme de tashabuh qui est relatif, on a le verset d'Allah tabarak wa ta'ala de la sourate Ash-Shura, dans le sens rapproché, rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Ce verset-là, il a une forme de tashabu qui, ou à cause de laquelle certains se sont égarés. C'est-à-dire les gens du ta'til. C'est qui les gens du ta'til, de la négation? Il dit le Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, le ta'til, la négation ici, c'est le fait de d'éloigner d'Allah tabarak wa ta'ala les choses sur lesquelles il nous est obligatoire de croire parmi les noms d'Allah et les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc ils vont les renier et ils vont donc du coup renier les textes et plutôt vider les textes de leur sens et de ce qu'ils indiquent. Et de la même façon, ils vont vider Allah tabarak wa ta'ala des noms et des attributs qu'Allah s'est attribué à lui-même. Parmi les noms et attributs mentionnés par Allah ou par son messager sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. Vous voyez? Donc ils ont compris à cause yani de tashabuh, yani l'équivoque qu'il y a dans cette parole-là, laïsa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Eux, ils ont eu la mauvaise compréhension qui est que Allah Jalla wa Ala n'a pas d'attribut. Et ils ont prétendu que le fait d'affirmer ses attributs à Allah Jalla wa Ala revient à le faire ressembler aux créatures, yani aboutira à l'anthropomorphisme. Et donc, ils se sont détournés des nombreux versets qui indiquent et prouvent l'affirmation certaine des attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. Et se sont détournés également du fait d'affirmer le sens originel de ces noms et attributs et du fait que le fait d'affirmer ces noms et attributs-là, yani le sens de ces noms et attributs, cela n'implique pas l'anthropomorphisme, le fait de croire que Allah y ressemble à ses créatures, qu'Allah nous en préserve. ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما حيث اشتبه على الوعيدية والوعيدية هم الذين يقولون بخلود كل من مات مصرا على الكبائر الوعيدية هم الذين يقولون بخلود كل من مات مصرا على الكبائر دون الشرك في النار ويقولون بأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات ومنهم من أنكر الشفاعة مطلقا ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار واضطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. Autre exemple, le verset d'Allah tabarak wa ta'ala de la sourate An-Nisa, verset 93, où Allah tabarak wa ta'ala, il dit « Et celui qui tue un croyant volontairement, sa rétribution sera l'enfer dans lequel il demeurera khaliden. » Ici, le sens de khaliden, mes frères, ça veut dire pour une longue durée, une longue période. « Wa ghadiba Allahu alayhim » Ya Allah est en colère contre lui. Wala'ana, le maudit, et il lui prépare un châtiment énorme. Le tashabuh qu'il y a dans ce verset-là, il a frappé certains. Parmi eux, al-wa'idiyya. Donc al-wa'idiyya, c'est qui al-wa'idiyya? Ce sont ceux qui disent que celui qui meurt sur un péché ou des péchés majeurs n'atteignant pas le degré non plus de polythéisme, est un enfer pour l'éternité. Et ils disent aussi que l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam n'est réservée qu'aux croyants afin de les élever en degré au paradis. Mais que celui qui est entré en enfer ou qui doit entrer en enfer, il n'y a pas d'intercession pour eux. Certains même renient totalement et absolument l'intercession de manière général et absolu. Donc, ces gens-là, à cause de leur mauvaise compréhension, ils croient que celui qui a tué un croyant volontairement est un enfer pour l'éternité. Et donc, ils ont... utilisé cette croyance-là sur tous les péchés majeurs. Et surtout ceux qui sont morts sur des péchés majeurs, Al-Kabair. Et donc ils ont délaissé tous les versets, indiquant que tout péché qui n'atteint pas le degré de polythéisme est sous la volonté d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et il se peut que la personne entre en enfer. Il se peut que la personne n'entre pas en enfer et qu'elle soit pardonnée par Allah Jalla wa Ala. Mais tant que cela n'atteint pas le degré de shirk al-akbar, faisant sortir de l'islam, la personne, sa destination finale sera al-jannah, le paradis. طيب. ولهذا قال الشيخ الشيثري رحمه الله وحفظه ومثل أيضا المؤلف رحمه الله لها بالنصوص الواردة في باب حكم أهل الكبائر فإن المرجئة نافوا مدلولها وقالوا بأن صاحب الكبيرة كامل الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة قالوا فهو كامل الإيمان إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام وفي المقابل هذا أو في المقابل هذا جاء الوعيدية من المعتزلة والخوارج تنظر أو نظروا إلى نصوص الوعيد كما في قوله جل وعلا أو في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حيث يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن قالوا فدل على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن طيب أما أهل سنة فهم جمعوا النصوص واستدلوا بها جميعا وردوا المتشابه إلى المحكم فقالوا النصوص المشتبهة للإيمان تثبت أصل الإيمان فلم يزل منهم أصل الإيمان النصوص النافية للإيمان تنفي كمال الإيمان وبهذا كان أهل سنة أحظى بأن تدل جميع الأدلة على مدارهم وهم أسعد بالدليل في مثل هذه المسائل يجي الشيخ الشثري حفظه الله تعالى donc ici l'auteur donc le cheikh Al-Uthaymin rahimahullah il a exemplifié son propos par des textes concernant le jugement de ceux qui commettent des péchés majeurs et qui meurent dessus. On verra ici donc qu'on a deux extrêmes à chaque fois. Ici, le premier extrême, c'est Al-Murji'a. Al-Murji'a qui renie carrément ce qu'indiquent ces versets-là, des versets de menace, comme les versets qu'on a vus concernant celui qui tue un croyant volontairement. Allah il dit « فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا » Sa rétribution sera l'enfer pour une très longue durée. Voyez? Donc, Al-Murji'a, il renie carrément ce qu'indiquent ces versets-là. Et ils disent que celui qui commet un péché majeur, eh bien, c'est un croyant d'une foi qui est complète. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils disent que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui a pour dernière parole sur terre, « La ilaha illallah » entre au paradis. Voyez? Donc ils disent que celui qui meurt sur At-Tawhid, qui meurt sur La ilaha illallah, sa foi elle est parfaite, elle est complète. Sa foi elle est comme celle de Abu Bakr et Omar. Sa foi elle est similaire à celle de Jibril et Mikaïl, alayhim assalam. Donc eux ils ont pris ce hadith qui est authentique, mais ils ont délaissé aussi les textes coraniques tels que celui qu'on a vu de la sourate An-Nisa. Et à l'autre extrême, à l'opposé, on a parmi Al-Wa'idiyya, Al-Mu'tazila, Al-Khawarij, qui ont regardé les textes de menaces de Wa'id, comme le verset que l'on a vu, ou le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fornicateur ne fornique pas pendant qu'il fornique en étant croyant. Le voleur ne vole pas lorsqu'il vole en étant croyant. Et ils disent donc que cela nous montre que celui qui commet un péché majeur n'est pas un croyant. Donc ils ont pris eux aussi, ils ont regardé d'un œil de borgne, une vision de borgne. Alors que, comme on a dit, Ahl Sunna, ils vont regarder avec les deux yeux. Et Ahl Sunna, qu'est-ce qu'ils disent? Ils réunissent d'abord les textes. Et après, ils vont s'en servir comme argument. Taïe. Et ils vont utiliser les versets qui sont muhkama, qui sont sans équivoque, dans le sens éclair, pour expliquer et clarifier les versets qui sont mutashabiha. Hada huwa al-manhaj al-haq. Ça, c'est la voie véritable. Réunir les textes et les textes qui sont mutashabiha. On va se servir des textes qui sont muhkama afin de les expliquer et les clarifier. C'est tout. Et donc ils disent, Ahl Sunna, dans ce chapitre-là, que les textes qui affirment la foi, eh bien, ils appuient et affirment la foi pour même ceux qui commettent des péchés majeurs. Ça y est. Donc ces textes-là, on doit les garder et on doit croire que celui qui commet un péché majeur, tant que cela n'atteint pas le degré de shirk ou de kufr faisant sortir de l'islam, la base même de la foi perdure toujours en lui. Donc il reste quand même un musulman d'une foi faible, mais c'est un musulman, un mu'min d'une foi qui est faible. Voyez. Et concernant maintenant les textes qui renient la foi, eh bien, ils sont arrivés à la conclusion que ces textes-là renient en vérité la perfection de la foi et non la base de la foi, de façon absolue. Mais ce qu'ils renient, c'est la perfection de la foi et la complétude de la foi. C'est ainsi que le sunna, eh bien, sont les plus savants dans ce domaine, les plus connaisseurs, de sorte à ce que toutes les preuves renvoient à leur façon de faire, et ce sont les plus heureux par la preuve dans ce genre de questions. Bihamdillah Azza wa Jal. ثم قال الشيخ العثيمين ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير حيث اشتبه على الجبرية والجبرية هي مذهب الجهم ابن صفوان الذي قال بأن الأفعال مقدورة للرب وليس للعبد والمؤثر فيه قدرة الرب وليس للعبد نعم هم قالوا أو فهموا منه أن العبد مجبور على عمله وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه نعم Donc parmi ces exemples également, le verset d'Allah tabarak wa ta'ala de la sourate Al-Hajj. Dans le sens rapproché, Allah dit « Ne sais-tu pas qu'Allah tabarak wa ta'ala sait ce qu'il y a dans le ciel et la terre ? Et ceci est dans un livre. Et ceci est certes facile pour Allah jalla wa ala. » Donc ce verset-là a induit en erreur ce que l'on appelle Al-Jabriya. Al-Jabriya, c'est le madhhab d'un certain Jahm ibn Safwan, hein, qui dit que les actes ne sont faits que par le Seigneur tabarak wa ta'ala et que le serviteur n'a aucune part dans ses actes. Et que la seule chose qui permet, yani, qui fait ces actions-là, eh bien c'est le pouvoir d'Allah, la puissance d'Allah, et que l'abd, encore une fois, le serviteur, il n'a aucune part, aucune volonté, aucune capacité dans ces actes-là. Vous voyez, ça c'est Al-Jabriya. Donc eux, ils croient que le serviteur, il est forcé de faire ce qu'il fait. Et ils prétendent que le serviteur, yani la créature, n'a pas de volonté propre à elle, n'a pas de capacité propre à elle. Et donc ils se sont éloignés, ils se sont détournés des versets indiquant que le serviteur, il a une volonté, il a une capacité. Et que le fait que l'acte de la créature est de deux types. Hein, la créature, elle a des actes qui sont volontaires et des actes qui sont involontaires. Ils ont tourné le dos à ça. Ils ont tourné le dos à cela. Alors que les savants qui sont ancrés dans la science, les gens yani, de la raison et de l'intelligence, ils savent comment interpréter et comprendre ces versets-là qui sont mutashabihah, hein, en leur donnant une explication qui convienne aux versets qui sont muhkama, aux autres versets yani, qui sont muhkama. Et donc, cela nous amène plutôt à la conclusion que le Coran tout entier, il est muhkam. Tout entier, il est muhkam. Et il n'a pas de tashabu. Tout entier, il est muhkam. Il n'a pas de tashabu. Taïeb. Dans le sens où, même les versets qui sont mutashabiha, Et bien dans tous les cas, ils seront expliqués par les versets qui sont muhkama. Et donc il n'y a aucun verset qui restera mutashabiha au final. Walhamdulillah. Voyez. Non. فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى والعلم عند الله. Je m'excuse aussi pour peut-être le fond sonore que certains entendent peut-être, car malheureusement dans mon quartier ils sont en train de faire un genre de fête, donc il y a de la musique, etc. Donc je m'excuse pour ce fond sonore. Cela, ils ont commencé à faire ça pendant le cours, donc j'ai pas pu fermer ne serait-ce que les volets. Les fenêtres sont fermées, mais les volets sont ouverts, donc du coup ça laisse un peu passer le son. Allah al-musta'an, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous préserve de tout mal, nous facilite la hijra dans des endroits purs et préservés de toute turpitude, de tout péché. Allah ta'ala alam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته